Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin, Camille Le Prieur, elle est militante PS en Ille-et-Vilaine et secrétaire nationale des jeunes socialistes en charge du renouvellement des pratiques. C'est sa première radio, elle est venue exprès de Rennes pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon, bonjour et merci à toute l'équipe de m'accueillir ce matin. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices.
Voilà, personne n'est oublié, c'est formidable. Camille Le Prieur, on va parler ce matin, pour commencer, de cette situation au Proche-Orient qui impacte beaucoup la vie politique française. Comment cette situation est vécue par les jeunes au Parti Socialiste en particulier ?
Par les jeunes, je pense qu'on est tous indignés de cette situation. Il y a une réalité dramatique dans la bande de Gaza qui s'opère aujourd'hui, une véritable tragédie, un massacre, et on en est absolument navré. Au Parti Socialiste, on appelle très largement à un cessez-le-feu, on appelle à une reprise du dialogue de paix international et évidemment à une libération des otages israéliens aussi. Donc voilà, le Parti Socialiste était ce samedi dans la rue pour appeler à la paix, appeler au soutien des Palestiniens et des Palestiniennes. Voilà, il y a une véritable situation de souffrance. On est pour une solution politique à deux États et il est essentiel de permettre ce terreau de réussite d'un dialogue vers un débouché démocratique. Il a déjà eu lieu avec les accords d'Oslo. Il peut se reproduire et voilà, nous sommes évidemment pour une résolution de l'ONU.
Alors on a ce climat politique particulier et aussi un autre climat, c'est l'antisémitisme qui monte de plus en plus en France, évidemment on ne peut le nier. Il ne s'agit pas là non plus de faire un procès d'intention à tel ou tel, mais ce climat d'antisémitisme, est-ce que, on sait que le PS est très attaché aux valeurs, est-ce que c'est quelque chose aussi qui touche la jeune génération dont vous faites partie? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que... vous espérez une solution? Est-ce que voilà, il y a aussi un dialogue qui s'opère pour essayer d'aller sur le terrain, de discuter avec les gens qui pourraient avoir des positions peut-être plus radicales?
Tout à fait. C'est l'antisémitisme en France nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. On est complètement indignés et l'antisémitisme n'aura jamais sa place en France. Quand on voit des étoiles de David taguées, une femme qui a eu une tentative d'assassinat à Lyon ce week-end, c'est autant d'éléments qui nous indignent, qui sont inexcusables et inacceptables en France. Et même si on a tout fait pour éviter d'exporter le conflit sur le sol national, la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a effectivement une situation d'accroissement des actes antisémites et nous les condamnons avec la plus grande fermeté, de la même manière que nous condamnons les amalgames entre terrorisme et musulmans qui peuvent apparaître parfois.
Voilà, aujourd'hui on a aussi une information qui va très vite, on a les réseaux sociaux aussi qui sont, allez on va bien dire le mot, un déversoir quand même, un exutoire, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Est-ce que là aussi il y a tout un travail sur le terrain des jeunes militants, parce que les jeunes sont très concernés finalement par ces questions?
Oui, tout à fait. On a vu même dans les milieux universitaires des montées d'antisémitisme apparaître. Effectivement, il faut le combattre, il faut sensibiliser et il faut essayer d'être au plus proche du terrain pour effectivement lutter contre ce phénomène d'antisémitisme en France. Ouais.
Alors, je parlais de climat délétère, hein, en quelque sorte, climat politique compliqué. Alors, rien à voir avec l'antisémitisme, mais plus évidemment avec cette crise au Proche-Orient, cette guerre au Proche-Orient. On a vu des prises de parole ces temps derniers avec des mots qui n'ont pas été prononcés. Alors on va faire clair, Jean-Luc Mélenchon n'a pas prononcé le mot terrorisme en ce qui concerne le Hamas et ce qu'on a qualifié de pogrom finalement le 7 octobre dernier. Est-ce que c'est difficile à vivre pour le Parti Socialiste, là encore, pour les jeunes du Parti Socialiste, qui sont au sein de la NUPES, de cette coalition de gauche? Est-ce qu'il y a des tiraillements, des fractures, ou en tout cas des discussions peut-être fortes?
Bah, tout à fait, ça a été pour nous un moment de rupture, je pense, on peut le qualifier comme ça. Ça a mené au moratoire de la suspension de la participation du Parti Socialiste aux travaux de la NUPES. Effectivement, c'est vraiment dommage d'en arriver à de à une telle situation, mais a été constatée une forme d'impasse pour nous, au Parti Socialiste, de travailler avec la France Insoumise. Je pense qu'on avait un intergroupe NUPES au Parlement qui menait un véritable front d'opposition à la majorité parlementaire. On a vu, par exemple, avec la réforme des retraites, à quel point ils ont été capables de s'exprimer d'une voix commune. Mais effectivement, cette voix commune, elle avait un obstacle. Cet obstacle, voilà, et c'est paradoxalement celui qui a réussi à nous rassembler en juin 2022. Et cet obstacle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est apparu que nous étions incapables de travailler dans un cadre de rassemblement avec un parti qui impose sa stratégie, une stratégie du bruit et de la fureur, comme on l'appelle parfois. Et effectivement, oui, ça a été pour nous un point de rupture. Et nous appelons aujourd'hui à reconstruire ce cadre commun en clarifiant à la fois les divergences que nous pouvons avoir entre les partis et aussi peut-être comment est-ce qu'on peut gouverner cet intergroupe, comment est-ce qu'on peut collaborer dans un travail en bonne intelligence tous ensemble et reconstruire l'union. On continue de croire à l'union, on pense que le rassemblement c'est la meilleure des choses, le meilleur des moyens pour battre le bloc libéral et l'extrême droite, je pense, en 2027. Et donc l'union pour nous elle est essentielle. À nous de savoir reconstruire ensemble un travail collectif.
Le grand danger, vous évoquez les élections de 2027, Camille Le Prieur, il y a aussi des élections européennes, hein, beaucoup plus proches de nous. Le danger, ce serait finalement une fracturation de la gauche qui pourrait perdre face aux autres candidats si elle n'est pas unie.
Alors, les européennes, effectivement, on a une situation qui est celle de listes séparées pour ces européennes. Toutefois, on pense que ce n'est pas une fin en soi à l'Union. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça se voit dans d'autres pays européens. En Allemagne, par exemple, les Verts avec les sociaux-démocrates allemands partiront séparés aux élections européennes, alors même qu'ils gouvernent ensemble.
On peut se poser la question, évidemment, pour les européennes, mais plus largement, par exemple, pour la présidentielle de 2027, c'est encore loin, vous me direz, mais on a déjà des sondages, voilà, ça c'est le monde médiatique. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, même pour vous, les jeunes socialistes, de vous dire, attention, si on est désunis, on risque de passer à côté ?
Non, 2027, c'est encore loin. Le Parti Socialiste est très engagé dans la reconstruction d'un cadre de rassemblement. Nous appelons évidemment tout le monde à réfléchir à la question, à un programme commun, voire à une candidature commune, pourquoi pas déjà. 2027, c'est encore dans quelques années. On a le temps, on a l'avenir et... Pour reprendre sur les européennes, le fait est que le scrutin proportionnel des européennes implique un additionnement des forces et non pas comme avec le scrutin majoritaire à deux tours, une espèce de division. Donc à nous de, sur la scène nationale, ne pas entretenir les divisions de manière artificielle et de maintenir ce travail de bonne intelligence sur la scène nationale. Et ce qui compte en juin 2024, c'est évidemment qu'il y ait le plus de députés de gauche qui pourront peut-être travailler ensemble effectivement au Parlement européen face au bloc libéral et à l'extrême droite, encore une fois.
Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de cette fracture à gauche, est-ce qu'il y a une forme d'union consommée, allais-je dire ? Est-ce que la fracture, elle restera quand même là, même en backup, pour prendre un mot un petit peu français ?
J'ai envie de croire que la politique politicienne sache dépasser ces espèces de guerres internes et que les Français ont besoin de plus que ça, je pense, que nous avons une responsabilité qui nous incombe. Et il est essentiel de pouvoir vraiment dépasser tout ça, travailler ensemble. On a su le faire, on est capable de le faire, on a bien des choses qui nous rassemblent et il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il y a des gauches avec des histoires, des identités, mais tout le monde est capable de dialoguer ensemble avec respect et sincérité vers des chemins communs.
avec des grandes batailles qui arrivent, des grandes luttes, hein, comme on les aime à gauche d'ailleurs. Ces grandes luttes, c'est par exemple cette loi immigration qui va être examinée, une loi qu'on promet un peu explosive. En tout cas, l'examen risque d'être un peu explosif du côté du Parlement. Est-ce que là aussi, il y a un combat à mener autour de cette loi pour plus de justice, pour une loi qui serait peut-être plus respectueuse des uns des autres?
Tout à fait. Hein. On espère pouvoir, là encore, mener un front contre cette majorité parlementaire qui cherche qu'une seule chose, c'est s'allier avec la droite, comme sans surprise, hein, j'ai envie de dire, avoir une loi la plus dure possible pour justement être acceptée par la droite. Et évidemment, pour nous, c'est abominable. C'est les plus... on sait qui est-ce qui seront les victimes d'une telle loi. Donc effectivement, on espère pouvoir mener vraiment une opposition formelle à ce projet. Ouais.
Qui arrive dans un contexte, là encore, hein, le contexte qu'on évoquait en commençant, ça risque, alors je disais explosif, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais ça risque aussi d'exacerber, peut-être que ce soit à droite ou à l'extrême droite, hein, vous parliez à l'instant de l'extrême droite, est-ce que justement c'est une des menaces qui vous inquiète, l'extrême droite? On en a beaucoup parlé, hein, autour de ce micro, la montée de l'extrême droite, y compris ici en Bretagne aujourd'hui.
Ah bah, tout à fait, hein. Nous on est complètement alarmés par la montée de l'extrême droite, on fait un travail quotidien pour montrer qu'il y a d'autres alternatives, qu'effectivement, il y a une espèce d'inquiétude des Françaises et des Français qui mène à être attirés par ces extrêmes qui promettent monts et merveilles alors qu'on sait très bien que ça mènera qu'à une casse sociale. Effectivement, dans un contexte de loi immigration, c'est encore plus inquiétant parce que l'extrême droite, c'est toujours la haine des autres. Et donc, on en est effaré. Ouais, ouais.
Est-ce que la gauche n'aurait pas dû s'emparer du problème de l'immigration ou de la sécurité, plus largement des sujets qui sont chers à l'extrême droite? Est-ce que, justement, la gauche n'a pas sa part de responsabilité pour ne pas avoir saisi, peut-être, ces problèmes avant?
Oui, tout à fait. Enfin, responsable, je ne sais pas, mais effectivement, on a un travail à mener pour montrer que le tout sécuritaire n'est pas l'unique solution, que le travail de proximité, que la discussion, que la prévention sont avant tout des solutions peut-être plus solvables que cette punition et cette répression que propose systématiquement l'extrême droite et qui ne mène qu'à des violences et des défiances des institutions de la part de certains quartiers ou certaines populations. Ouais.
Vous arrivez à parler, on parlait des étudiants tout à l'heure, on va encore en parler des étudiants, c'est important, de cette jeune génération. Est-ce que vous arrivez à parler, par exemple, avec des étudiants qui seraient, ou des jeunes qui seraient tentés d'aller vers l'extrême droite? Vous arrivez à leur dire, écoutez, voilà, faut y réfléchir, faut discuter?
Je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas, on y essaye, ça c'est sûr. L'idée, c'est effectivement d'aller voir ces jeunes-là qui sont tentés par les extrêmes. La réalité, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir vraiment proposer un autre projet de société qui répond à cette défiance de la jeunesse en l'avenir. La réalité, c'est que le Bloc libéral, on y est pour partie responsable et que effectivement il est temps de proposer autre chose, de susciter l'espoir et au Parti socialiste nous avons plein d'idées.
Voilà, alors on va pas toutes les développer ce matin ces idées, mais allez, par exemple sur l'éducation, on entend beaucoup aujourd'hui parler d'éducation, on a eu ce terrible attentat d'Arras, ouais. L'éducation, le savoir, la connaissance, l'enseignement a été visé évidemment à travers ce professeur assassiné. Est-ce qu'il faut refonder aujourd'hui un peu les bases? Alors de l'éducation, mais au moins de l'enseignement.
Ah bah, tout à fait. Je pense que l'école publique est aujourd'hui vraiment victime d'une baisse de moyens, d'une baisse de capacité et n'est plus capable d'assurer la promesse républicaine. Il y a un enjeu pour rémunérer justement les enseignants, pour vraiment repermettre... comment on pourrait dire, l'éducation morale et civique, par exemple, qui est...
On a oublié un peu la République dans l'éducation. On voit aujourd'hui des problèmes de communautarisme. Là encore, hein, il s'agit juste d'un constat de problèmes de communautarisme. La religion s'invite beaucoup à l'école. Est-ce qu'il faut remettre à plat ces choses-là, à un moment, ou au moins en discuter au niveau de la société, au niveau de la classe politique?
Ouais, tout à fait. La laïcité, elle a toute sa part à l'école, elle a toute sa place, et il est essentiel de pouvoir permettre de maintenir ce travail de laïcité qui a été mené déjà depuis 2004. Effectivement, il y a un enjeu. Le communautarisme à l'école, je ne sais pas s'il existe, mais effectivement, il est important de pouvoir proposer autre chose que croire en la religion, qu'on a beaucoup d'autres choses à offrir et que la promesse républicaine, elle se fait à l'école et il y a beaucoup de choses à offrir, oui.
On a beaucoup parlé de la politique, de la manière de faire de la politique. J'ai posé la question à de nombreux invités, particulièrement mes jeunes invités le matin. Est-ce que votre génération aspire à faire de la politique différemment? Peut-être accompagner une société qui change très vite. Hein. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais technologiquement, la société change. Et puis au niveau du travail également et de beaucoup d'engagements sociaux. Est-ce qu'il faut changer la lecture politique et la façon de faire de la politique aujourd'hui en France?
Peut-être, oui, que c'est essentiel. Quand on voit la défiance des Françaises et des Français dans les institutions, je pense qu'il est essentiel pour nous, politiques, de se questionner sur notre manière de faire de la politique, sur ce qu'on veut offrir demain et sur, justement, comment susciter l'espoir et changer la vie des gens. Donc, effectivement, peut-être plus de participation, on l'entend souvent. Et effectivement, par exemple, à Rennes, qui a été l'une des villes pionnières dans les budgets participatifs, on voit que c'est une réussite, qu'il y a un certain nombre de projets qu'on vu le jour et qui suscite beaucoup d'engouement auprès des habitantes et des habitants, donc effectivement. Une prise en compte de ces aspirations des Françaises et des Français dans la politique, parce que ce n'est pas que négatif, la politique. C'est le meilleur moyen d'offrir un changement de perspective aux citoyens et aux citoyennes.
Alors, changement de perspective avec aussi une féminisation de la vie politique. Je vous pose la question, mais je m'attends déjà à la réponse. Est-ce que c'est une bonne chose, cette féminisation de la vie politique?
Vraie question, bien sûr. Effectivement, c'est important. Il y a un enjeu dans nos partis politiques. Je pense que la féminisation a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est formidable de voir des listes paritaires. Mais par exemple, pour les élections européennes, la réalité, c'est que les listes paritaires ne sont pas obligatoire dans l'ensemble des pays. Nous, au Parti Socialiste, avec notre programme « Faire basculer l'Europe néolibérale vers le socialisme écologique », nous proposons, par exemple, d'imposer ces listes paritaires dans l'ensemble des pays européens.
Alors, c'est pas simple, parce que les mentalités sont très différentes d'un pays à l'autre.
Tout à fait.
On le ressent bien, l'Europe est encore un peu fractionnée de ce point de vue-là.
Bien sûr.
Je vous promettais tout à l'heure, Camille Dauprieur, d'évoquer la situation des étudiants. On en parle aussi souvent sur cette antenne. Situation difficile pour les étudiants aujourd'hui en France, ne serait-ce que du point de vue matériel. Aujourd'hui, les étudiants ont du mal à vivre et à étudier.
Ouais, tout à fait. Quand on sait que c'est un étudiant sur deux qui a déjà renoncé à manger un repas pour des raisons financières, c'est alarmant. C'est les files alimentaires qui grandissent chaque semaine. Effectivement, on est absolument indigné d'une telle situation. On sait que le système de bourse a montré plus que ses limites, avec des effets de seuil qui sont désuets et des montants qui ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants. Donc en France, aujourd'hui, troisième puissance économique européenne, on laisse des étudiants, sa jeunesse, ne pas manger à sa faim. Donc c'est quand même une situation qui est vraiment inquiétante, qui nous inquiète tous. Et au Parti Socialiste, nous avions un début de réponse. C'était de permettre de proposer un un repas à 1 euro pour tous les étudiantes et les étudiants, boursiers ou non, étudiants étrangers y compris. Donc effectivement, il y a un enjeu. On propose d'autres choses aussi. C'est par exemple le revenu de jeunesse minimum à 1063 euros par mois. Mais on propose également un investissement massif dans la rénovation et la construction de lieux de restauration et de logements crous, quand on sait la tension du logement à Rennes et ailleurs, en Bretagne particulièrement. On a une vraie situation.
Réformer finalement cette partie, j'allais dire, de l'éducation, au niveau des étudiants, réformer, mais alors réformer en profondeur, parce qu'on a vu que, par exemple, le repas à 1 euro, ça n'a pas fonctionné, ça a été rejeté. Vous avez mal vécu, j'imagine, le fait que ça passe pas, réforme, en tout cas cette proposition.
Ouais, quand on voit que la majorité parlementaire n'y réfléchit même pas, sous prétexte que c'est dans le cadre de la niche parlementaire socialiste, balayer d'un revers de la main cette situation qui aurait réglé le problème de la faim quand même. Enfin, c'est pas rien. Tout ce que le gouvernement propose, c'est donc le salariat. Quand on sait très bien que avoir un travail salarié quand on est étudiant, c'est un frein à la réussite universitaire. Donc c'est vraiment dommageable et puis voilà.
On gage des talents finalement de jeunes étudiants qui pourraient être très brillants dans leurs branches respectives et qui vont bien qu'ils vont arrêter parce que voilà, ils peuvent plus arriver à vivre. Et puis notons aussi que tous les étudiants n'ont pas des parents qui peuvent les aider. Il y a aussi ce problème aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Finalement, on permet à quelques-uns de réussir et à tous les autres de travailler deux fois plus pour y arriver. Donc évidemment, gâcher des talents, le mot est à mon avis tout juste. Ouais.
On a cassé l'ascenseur social en France aujourd'hui, de ce point de vue-là.
Bah, on dirait bien, ouais, effectivement, finalement, c'est les héritiers, c'est les plus... Les bourgeois qui peuvent avoir plus de chances de réussir et effectivement finalement c'est le cercle de la précarité qui continue et qui nous indigne. Ouais.
On a encore quelques minutes. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la situation plus largement en France aujourd'hui. On sait que le Parti Socialiste est très impliqué dans tout ce qui est social. Hein, ça sonne, social-socialiste. On a souvent d'ailleurs reproché au Parti Socialiste de s'être éloigné, par exemple, des travailleurs, des classes sociales moyennes. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une reconquête à faire, sans vilain jeu de mots, de ce point de vue-là ?
Oui. Oui, bah, une reconquête nécessairement. Hein. Il y a un constat d'un désintérêt global envers le Parti Socialiste. Mais notre travail de fond est constant. Et par exemple, dans le cadre de l'adoption du budget de l'État et de la sécurité sociale à venir sur la fin de l'année, qui sera sûrement adopté en 49.3 pour changer, nous proposons...
On en parle.
Oui. Nous proposons un contre-budget avec un certain nombre de propositions qui luttent contre la vie chère, contre l'inflation. On peut penser à l'augmentation du SMIC à 1600, à une revalorisation des minima sociaux, mais aussi à un engagement réel vers l'écologie avec, par exemple, un forfait de train à 48 euros par mois qui serait valable sur l'ensemble du territoire, à la manière de l'Allemagne, hein, qui produit déjà un équivalent. Voilà, un certain nombre de choses. Par exemple aussi des priorités en Outre-mer avec un plan d'investissement d'un milliard d'euros pour l'accès à l'eau ou encore un blocage des prix sur les produits de première nécessité. Voilà, un certain nombre de chantiers que nous aimerions mener, mais évidemment, c'est avant tout de l'opposition puisque nous n'en verrons jamais la couleur, malheureusement, tant que nous ne serons pas au pouvoir. Donc voilà, à nous de pouvoir créer les conditions nécessaires de cette réussite et de justement de permettre la réussite de telles propositions d'alternatives qui changeraient la vie des gens. Ouais.
Un dernier mot. La jeune génération, c'est aussi des inquiétudes. Alors, on ne va pas noircir le tableau. On a eu une grosse tempête. Elle nous en est organisée ici, d'ailleurs, à Bretagne 5, vous l'aurez compris, amis auditeurs. D'un point de vue politique aujourd'hui, c'est entré aussi dans le discours politique, cette préoccupation du changement climatique, de l'environnement, qui devient de plus en plus prégnante et de plus en plus urgente. Est-ce qu'on doit en faire, pour les années à venir, j'allais presque dire, une forme de volonté politique pour changer les mentalités, pour faire avancer cette cause de l'écologie ?
Au-delà de le vouloir, je pense qu'il y a juste un constat d'une situation alarmante, urgente, et qu'il convient effectivement de prendre à bras-le-corps. Si on ne s'en charge pas, c'est toutes les générations futures qui en paieront le prix, si ce n'est déjà le cas. Et nous devons pouvoir être capables d'accueillir les migrants climatiques de demain, être capables de répondre aux événements d'intempéries encore plus puissants que peut-être la tempête Ciaran.
Qu'est-ce que ça va être,
hein? Oui. Donc effectivement, des situations climatiques de plus en plus inquiétantes, et effectivement, voilà, les crues, la sécheresse, autant de sujets qui peuvent toucher ici en Bretagne et ailleurs, et qu'il est essentiel de prendre en compte, sinon c'est nous en paierons le prix, et nos générations futures, n'en parlons pas. Ouais.
Et donc, les partis politiques traditionnels, je mets un petit peu à part Europe Écologie Les Verts, qui en a fait évidemment sa raison d'être, doivent s'investir sur l'écologie.
Ah bah effectivement, hein, nous, il n'y a plus de socialisme sans socialisme écologique. Tout à fait, c'est l'écologie d'abord, et avec une prise en compte du social, puisque sinon, il n'y a pas de véritable écologie. Donc, tout à fait, c'est essentiel de pouvoir prendre en compte ce travail écologique dans nos partis traditionnels.
Voilà, les partis traditionnels avec les jeunes qui investissent ces partis. Ce matin, vous en étiez l'illustration, Camille Leprieur. Je rappelle que vous êtes militante PS en Ille-et-Vilaine et secrétaire nationale des jeunes socialistes en charge du renouvellement des pratiques. Et on a compris que le chantier était important, mais que vous le preniez à bras-le-corps. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct. Pour votre première radio, ça s'est très bien passé, voyez-vous.
Formidable, c'était très bien. Merci à vous de votre accueil, c'était très bien.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.